BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et en ce mardi soir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Bienvenue, que vous soyez à la radio, à la télé. Bienvenue sur BFM Business, Tech & Co, la quotidienne. Vous le savez, on est là chaque soir du lundi au jeudi de 20h à 21h30. Voilà, et si vous en avez marre du foot, vous avez bien fait de venir chez nous. Avec au sommaire de ce Tech & Co ce soir, eh bien, après Apple, l'Union Européenne pointe du doigt Microsoft. La raison, eh bien, c'est Teams qui est fortement imbriqué dans Office 365 et l'Europe n'aime pas trop ça. On parlera aussi de Netflix. Netflix peut être bientôt gratuit en France. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est une idée qui commence à germer du côté de chez Netflix? On en parlera avec nos experts. Et puis les JO se rapprochent. Deux partenaires des JO seront avec nous sur le plateau, Orange et Samsung. Et vous verrez qu'il y aura pas mal de prouesses technologiques. Bien évidemment, on parlera de 5G, mais on parlera aussi de retransmission de vidéo faite avec le Galaxy S24 Ultra un peu partout sur la scène lors de la cérémonie d'ouverture. Ça semble tout ça très intéressant. Voilà le sommaire de ce Tech & Co la quotidienne. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co la quotidienne, le débrief de la tech.
Bien sûr, le débrief de l'actu tech. On commence avec ça, chaque soir, 20h, 21h, notez-le, prenez cette habitude, ce rendez-vous, pendant une heure sur BFM Business, de 20h à 21h, on débrief ensemble les dernières actualités tech, avec les meilleurs experts qui sont là, que vous connaissez maintenant, pour certains. Ce soir, sur le plateau de Tech & Co, Yves Maître est avec nous, salut Yves.
Bonsoir.
Ça va Yves ?
Très bien.
Operating partner Jolt Capital, consultant, ancien PDG de HTC et fraîchement de retour de Chine, c'est ça ?
Voilà.
Tu nous raconteras tout ça tout à l'heure parce qu'on va parler de Huawei. Tiens,
on va parler d'Operating System, d'OS. Voilà. Oui.
On en parle dans quelques minutes. Enguerrand Renaud est avec nous aussi. Bonsoir Enguerrand.
Bonsoir François.
Ancien journaliste donc au Figaro, spécialisé dans la tech bien sûr depuis de nombreuses années. Aujourd'hui consultant chez Image 7. Et Frédéric Krebs est avec nous aussi ce soir. Salut Fred.
Ouais, bonsoir François.
CMO de Serena, ancien partenaire chez Newfound et ancien directeur général d'Allociné. Petit sujet pour toi tout à l'heure, puisqu'on va évoquer, vous l'avez vu dans le sommaire, Netflix. Est-ce que c'est vraiment un truc qu'on peut imaginer, un Netflix gratuit? Évidemment, la contrepartie, c'est qu'on aurait encore plus de pubs. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Fred, qui a travaillé dans ce milieu-là et qui connaît très bien ce milieu-là, nous en parlera tout à l'heure. Mais pour débuter, les amis, l'Union européenne, c'est un peu comme un bulldog. Quand elle chope un Américain, elle ne le lâche pas. Là, elle n'a pas lâché Apple, et elle en a un deuxième qu'elle aimerait bien mordre, c'est Microsoft. Pourtant, Microsoft, ils savent que parfois, les injonctions européennes peuvent faire mal. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire du navigateur hein? À l'époque, c'était Internet Explorer, hein, qui était de facto installé sur les ordis avec Windows, hein, finalement. Et puis, Microsoft avait été obligé de payer une amende lourde, parce que, en fait, ce que reprochait l'Europe à Microsoft, c'est qu'on avait Internet Explorer, et pas Chrome, et pas Firefox, qui était installé de facto sur l'ordi. Il fallait nous-mêmes aller télécharger ce navigateur, et ça avait été quand même un gros scandale à l'époque. Hein.
Ouais.
Microsoft, semble-t-il, serait sur la même pente glissante un petit peu en guérant, on est d'accord hein.
Oh bah c'est un grand classique.
C'est un grand classique.
Le match
oui, on aurait pu se dire, chat échaudé, crin à l'eau froide, on ne va pas recommencer avec cette histoire. Mais non.
C'est un grand classique. Margaret Vestager, qui pourrait être reconduite à son poste ou de vice-présidente de la commission et surtout de l'antitrust. Ce que tu disais, elle poursuit Google et Microsoft, et c'est pas la première fois, hein. Il y avait Internet Explorer, il y avait Windows Media Player,
oui.
Et à chaque fois ça s'est terminé par des amendes. Alors Windows Media Player.
Il y a que les plus vieux qui connaissent ce truc-là. Hein.
C'était 500 millions, et après ils avaient remis 900 millions parce que Microsoft ne s'était pas conformé à ça. Et Internet Explorer, 560 millions, ça fait beaucoup d'argent.
Ça fait beaucoup d'argent.
Mais c'est tout petit. C'est tout petit. Il faut voir un Google. Margaret Vestager a mis au moins 4 milliards d'amendes à Google. Là, c'est moins de 2 milliards. Et qu'est-ce que c'est que 2 milliards pour Microsoft? franchement, qu'est-ce que c'est que 2 milliards pour Microsoft? Donc, il continue à chaque fois.
Et là, oui, surtout qu'il ne les paye pas en général, ces amendes.
Si, il les paye bien.
Il les paye, ouais, mais bon, souvent elles sont minorées. Enfin, il s'arrange, non?
Il paye. Mais on ne le voit même pas sur les résultats trimestriels d'un groupe comme Microsoft. C'est epsilonesque.
Sauf que là, tu oublies peut-être une chose, si je puis me permettre, mon cher Enguerrand. C'est que là, maintenant, le calcul des amendes est un petit peu différent.
Alors, effectivement, si ça rentre dans le DMA,
on en parlait hier avec Apple, si ça rentre dans le DMA,
c'est 10%.
C'est 10% du chiffre d'affaires mondial de la boîte.
Voilà.
Et Microsoft, là.
Et 20% s'il y a une récidive. Alors, 20% du chiffre d'affaires mondial.
Ça commence à faire.
Là, ça commence à faire.
Je pense que Satya Nadella va faire gloops quand même.
Exactement. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Mais on le voit, Microsoft le fait à chaque fois. Il a essayé avec Internet Explorer, il essaye avec son Media Player. Maintenant, il essaye avec son outil.
Ce qu'on reproche concrètement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure.
Faire ce qu'on appelle un groupement, un bundle.
Voilà.
C'est-à-dire mettre tous ces outils dans la suite Office 365.
Je ne sais pas si Fred et Yves peuvent prendre, la suite. Hein, c'est que dans Office 365, forcément, intimement lié, c'est Teams. Voilà. Et Zoom n'est pas content, par exemple.
Et Zoom n'est pas content, Slack n'est pas content. Il faut se rappeler que ce qui se passe en ce moment, c'est issu d'une plainte qui a été déposée par Slack en 2020. Donc il a fallu déjà du temps avant d'arriver en fait à ce qui se passe aujourd'hui. Et l'an dernier déjà, Microsoft avait essayé en fait de la jouer fine en découplant justement Teams du reste d'Office 365 et de ses différentes suites. Mais ça n'a pas suffi en tout cas aux yeux de la commission. Alors moi je me pose quand même une question. La question c'est, est-ce que ça rentre pas dans le modèle économique d'un Microsoft? Est-ce que ça rentre pas dans le modèle économique d'un Google? Comme tu l'as dit, Enguerrand, c'est epsilonesque en fait dans leur compte de résultats. Mais entre-temps, le temps que les procédures se finissent, ils ont le temps.
Ils font rentrer le tiroir caisse.
Voilà. Et ils tuent la concurrence. Et tuer la concurrence, ça vaut combien?
C'est ça la vraie question.
Tuer la concurrence, ça vaut combien? On l'a vu, tu redisais Internet Explorer, mais enfin, c'était le tout début. C'était le tout début des navigateurs Internet.
Cela dit, ça leur a pas porté bonheur. Hein, parce qu'Internet Explorer, suite à ça, en fait, les parts de marché se sont effondrés au profit de Firefox au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que tout le monde, il y avait la mode de Firefox, et après ça a été Chrome. Alors Chrome, lui, il a cramé tout le monde.
Mais Chrome, c'est Google. Mais tu es en fait, la vraie question pour Satya Nadella, enfin pour tous les patrons qui se sont succédés, tu es un concurrent. Ça vaut combien?
Oui, ça vaut combien, c'est ça. Ouais. Okay.
Cela étant, Yves, je suis absolument d'accord. C'est vrai que les montants sont dérisoires par rapport. Bon, alors la menace est plus grosse cette fois-là. C'est dans le cadre du DMA, parce qu'on est dans ce cadre-là. Bon, mais quand même, c'est bien. Enfin, je veux dire, quand on est dans l'antitrust, à un moment, il faut être sanctionné. Il faut quand même, quand on est pris la main dans le pot de confiture et qu'on l'a fait exprès, une fois, deux fois, à un moment, il faut être sanctionné. Donc ça, c'est la première chose. Mais quand même, moi, j'ai quand même un petit doute, c'est qu'en ce moment, vous avez vu, il y a eu les élections européennes, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines.
Ah ouais, c'est un truc qu'on a vaguement suivi, qui n'a pas beaucoup d'impact, en fait, pour notre pays, on est d'accord.
Non, pour notre pays, on l'a même oublié.
Oui, c'est vrai.
On l'a même oublié. Bon, donc, il y a ces élections européennes.
Mon petit qu'on va s'en souvenir dimanche prochain, mais bon.
On va voir. Et donc, les commissaires européens, eh bien, ils remettent leur mandat en jeu.
Oui.
Donc, cette dame... Parce que, comme tu le faisais remarquer, la plainte, elle est 2020.
Ouais.
Et comme par hasard, à quelques jours de la fin de son mandat, et peut-être du renouvellement de son mandat, on se réveille et on tape hier sur Apple, aujourd'hui sur Microsoft. Je me dis, tiens, il y a un hasard des calendriers tout à fait admirable.
Non. Bon, après, il tape quand même assez souvent sur... Tu crois
Margaret Verstager, ça fait quand même un certain
temps. Je suis mauvaise langue.
Non. C'est vrai que le calendrier...
On peut quand même pas dire que Margaret Verstager ait attendu la fin de son mandat pour taper sur Google, Microsoft et sur à peu près tout.
Elle le met bien en musique, elle le fait bien savoir, etc.
Non, je pense que c'est...
Elle est en campagne.
On l'a vu depuis une éternité, c'est une femme de conviction. Elle était à l'antitrust avant. La dernière mandature, elle était à la fois l'antitrust et vice-présidente. C'est quand même quelqu'un qui tient son dossier.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Elle est challengée par la France et l'Allemagne. Okay. Pourquoi elle est chargée par la France et l'Allemagne? Parce que la France et l'Allemagne voudraient une exception sur les fusions d'entreprises européennes pour pouvoir se battre contre les Américaines. Et donc, elle, cette fameuse Margaret, s'oppose à cette demande de dérogation de la France et l'Allemagne. Donc il y a quand même, au sein du Parlement européen, une bataille entre elle et la France et l'Allemagne sur un sujet essentiel pour faire grandir et pour faire des géants de la tech, juste au moment du renouvellement des mandats. Donc je veux bien passer pour un naïf, mais enfin, quand on se dispute avec la France et l'Allemagne au moment d'être... où son mandat arrive à terme et d'être éventuellement renouvelé, qu'on fasse un peu de publicité et qu'on se fasse un peu mousser, c'est de bonne guerre. Donc je pense qu'il y a quand même un peu de ça, quoi qu'on me dise.
Bon, ça va être intéressant toujours de voir la réponse maintenant de Microsoft concernant ce sujet. Voilà, mais c'est vrai qu'on est dans une période où tout est un peu mouvant. Hein. Mais ça va être intéressant de suivre ça, bien sûr. Ça nous amène d'ailleurs à notre deuxième sujet de ce soir. Alors vous n'êtes pas sans savoir que l'ADU Solution a accéléré évidemment des élections législatives. Le premier tour aura lieu ce dimanche, avec évidemment un panorama politique qui risque d'être bouleversé. Et la question qu'on se pose, tout en faisant pas de politique, hein, dans Tech & Co, c'est pas notre but, mais de se poser quand même la question au niveau de la tech. C'est vrai que tous les porte-paroles aujourd'hui des partis politiques présentent leur programme. Mais alors, peut-être que j'ai mal regardé ou je me suis mal renseigné, j'ai pas vu grand-chose la technologie, sur la tech en fait.
C'est clairement pas au centre des discours et des préoccupations politiques. À mon avis, il faut le regretter. Enfin, parce qu'on est quand même, et ici même sur ce plateau, tu en fais quasiment une chronique quotidienne, on est quand même dans des tournants.
Mais bien sûr.
Absolument.
Et alors, c'est vrai qu'on est dans un pays
génératif
qui est bouleversé par plein de sujets, évidemment, que notre société est vraiment se questionne beaucoup en ce moment. Mais malgré tout, quand on réfléchit un peu, la tech est au cœur de tout ça, de cette transformation.
Mais ça, on n'en parle pas. Alors, je me suis plongé, mes petits camarades d'Image 7 ont fait un remarquable travail, puisque maintenant, on parle de la tripartition, donc il y a trois blocs. Donc, on a fait trois colonnes. Puis, on a essayé de voir qu'est-ce qui serait, j'allais dire, pro-business ou pas pro-business, parce que ce que tu as dit, la tech, c'est pas le sujet. Alors, bon, le bloc présidentiel, hein, c'est lui qui a lancé pas tout à fait de la French Tech, mais enfin...
Il a en tout cas supporté
La Startup Nation
est portée.
Voilà, c'est Macron. Malheureusement, c'est devenu un peu ringard, mais l'écosystème est là, quand même. Ça fait une dizaine d'années que l'écosystème est là. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a du financement. On est à 10 milliards de financement des startups par an. On est derrière la Grande-Bretagne et largement devant l'Allemagne depuis plusieurs années. Donc, ça a fonctionné. Est-ce que c'est ringard ou pas? Le RN. C'est un paradoxe vivant. Hein. D'un côté, ils vont favoriser la création d'entreprises. Hein. Ils n'appellent pas ça des startups. Avec suppression de l'impôt sur l'IS pour les jeunes créateurs de moins de 30 ans. Pourquoi pas? Ouais. Et de l'autre, ils mettent l'accent. Alors vraiment, ils reviennent à une vision très ancienne. Il faut que ce soit de l'industrie, la localisation, la souveraineté. Ils détestent les licornes qui prennent l'argent français puis après vont se vendre aux Américains. Voilà, donc ça c'est assez compliqué. Ils sont pour un protectionnisme et ils veulent une exception technologique. Je ne sais pas très bien ce qu'est une exception culturelle.
Une exception technologique.
Je connais l'exception culturelle, mais l'exception
c'est un peu plus compliqué. Autant l'exception culturelle, on peut comprendre parce qu'on a une histoire.
Mais c'est vrai. Quand on front populaire, alors là, c'est pas tout à fait un programme pro-business, c'est pas étonnant. Je vois pas beaucoup de choses qui seraient directement contre les startups. En revanche, suppression de la flat tax, suppression de l'exit tax, rétablissement de l'ISF. Tout ça va pas faire plaisir à nos start-upers qui rêvent de devenir des patrons de licorne.
Fred, c'est un peu le stress quand même pour cette French Tech qui...
Écoute, voilà. C'est vraiment le stress parce que, en fait, quand on regarde, en tout cas du côté des extrêmes, le maître mot quand même, c'est le repli sur soi. C'est une sorte de fermeture des frontières.
Ce qui va à l'encontre, en fait, de la philosophie de développement de ces startups.
Exactement, parce que nous, au quotidien, en tout cas chez Serena ou dans tous les fonds d'investissement, en tout cas sur la place de Paris, nous, ce qu'on recommande aux startups, c'est au contraire d'aller voguer, en fait, à l'extérieur des frontières. D'aller voguer en Europe, mais d'aller voguer aussi aux US. Donc, il y a vraiment deux salles, deux ambiances, en tout cas, dans l'appréhension de tout ça. Et j'ai l'impression que on va refaire en fait tout le cheminement inverse si en tout cas un vote extrême arrive au pouvoir. Donc c'est ça qui est extrêmement frustrant en tout cas vu notre point de vue. Et donc effectivement on est très inquiet sur ce qui va se passer en fait le 7 juillet. Enfin après le 7 juillet.
Yves,
moi qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que d'abord, comme vous l'avez remarqué, on n'en parle pas. Donc si on n'en parle pas, On peut dire que ça intéresse personne, mais on peut dire aussi qu'il n'y a pas de gros problème. C'est que ça ne marche pas si mal que ça. Parce que dès que ça ne marche pas, alors là, par contre, pour taper sur quelqu'un... Donc, on peut se dire quand même que le travail qui a été fait par l'ensemble de l'écosystème, ce n'est pas une personne ou un parti, c'est l'ensemble de l'écosystème, c'est la France, c'est l'Europe, est plutôt favorable. D'ailleurs, en parlant de seed ou de fonds d'investissement pour les petites start-up, on a rattrapé notre retard, pas forcément en somme dans l'absolu, mais en nombre de start-up, etc., par rapport aux États-Unis.
Bon. Pardonne-moi, mais il faut rappeler qu'il y a 25 000 start-up qui ont été créées là depuis 10 ans.
Absolument.
Et plus de, excusez-moi, de plus de 1 million d'emplois qui ont été créés en fait à travers tout ce qui
est. Donc c'est pas anecdotique.
Donc c'est exactement
c'est
ce que tu dis.
Anecdotique.
Et maintenant, il faut créer des fonds de grosses, hein, c'est-à-dire il faut faire grandir. Mmh. Hop, on va faire très simple. Elles ont tous passé, beaucoup ont passé l'école maternelle, elles ont fait le primaire, elles font le collège. Maintenant, il faut les amener
au lycée,
au bac et à l'université. Donc ça, c'est le nouveau challenge à venir. Donc pour moi, ce qui m'importe en tant qu'électeur, en tant que citoyen, en tant qu'expert, c'est de regarder quels sont les programmes qui vont permettre, sur cette pépinière existante, de prendre les meilleurs et de les faire grandir. Et les faire grandir, c'est forcément s'ouvrir, parce que le marché qui permet de les faire grandir, c'est d'abord, qu'on le veuille ou non, le marché américain. Point à la ligne. Ça, c'est la première chose que je regarde. Deuxième chose que je regarde, c'est qu'est-ce qu'il faut pour faire marcher tout ça ? Il faut de l'argent, il faut des hommes. Bon, alors, l'argent, parlons-en. Une entreprise, on me dit, on va baisser l'impôt sur les sociétés. Sauf que vous savez quoi, les start-up, elles perdent de l'argent. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que des fonds...
Oui, donc elles n'en payent pas.
Elles perdent de l'argent. Ouais. Donc, c'est une mesure qui sert
bien sûr.
À Orange, à Total, à Louis Vuitton. Mais pour ces gens-là, ça ne sert à rien.
Ça sert à rien.
Qu'est-ce qui sert à ces gens-là ? Ce qui sert à ces gens-là, c'est les charges sociales. C'est de pouvoir avoir des salaires compétitifs. Mm-hmm. Le crédit impôt recherche, qui est quelque chose qui aide énormément l'investissement. Ça, et ça veut dire qu'il va falloir faire très attention aux programmes qui vont avoir tendance intrinsèquement à alourdir les charges sociales.
Ouais, au lieu d'accompagner en fait les startups.
Tout alourdissement des charges sociales, des négatives aux startups. Et puis dernier point, c'est les hommes.
Rapidement,
hommes, on parle de l'immigration, mais moi je parle de l'émigration. Parce qu'il faut retenir nos talents, il faut faire revenir nos talents, et là il faut leur donner des conditions de vie, des envies de travailler en France, qui vont leur permettre de revenir. Mmh. Et donc, pour moi, ce que je conseille aux électeurs, c'est de regarder ces programmes qui vont inciter les entreprises à grossir, et puis les programmes qui vont inciter les gens à rester en France ou les Français à revenir en France. Voilà, c'est vraiment comme ça que je regarde les choses.
On a beaucoup de sujets ce soir. J'aimerais qu'on passe à un autre qui est passionnant. Et Yves, je vais te redonner la parole. Et après, Fred et Enguerrand pourront réagir là-dessus. C'est Huawei. Huawei, le géant chinois du smartphone, mais pas que du smartphone. Ils font plein de choses. Ils font des ordi, ils font des voitures.
Ils sont équipementiers,
réseau, t'as raison. Ouais. Sur la 5G, même si ces dernières années, ça a été compliqué pour eux de proposer de la 5G en Occident, on va dire. Hein. Yves, l'info du jour, c'est que... En fait, Huawei va arrêter de collaborer avec Android. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un téléphone Huawei a une base Android, même si la quintessence même de Google a été enlevée, la base, c'est Android. Eh bien, Huawei va se séparer d'Android pour créer son propre, et là, créer déjà, son propre système d'exploitation qui s'appelle Harmony OS. Tu étais en Chine, tu reviens de Chine, là, tu as suivi tout ça, et en plus, tu connais le patron de Huawei.
Alors, d'abord, c'est un sujet... Le sujet Harmony OS et la séparation d'Android, c'est un sujet qui a commencé en 2017-2018. Okay, même avant les sanctions. Il y avait des doutes dans le couple. Et donc, les gens se disaient, tiens, je vais peut-être me préparer. Bon. Et il s'avère que...
Bon, après, il y a Trump qui est arrivé...
Quand j'étais à la Fondation Eclipse, dans la Fondation Eclipse, le projet Harmony Open Source a été mis pour l'Europe dans la Fondation Eclipse en partenariat avec une fondation chinoise.
Okay. D'accord.
Donc, la base, et moi j'étais à la Fondation Eclipse, donc j'ai vraiment suivi ce projet Harmony OS depuis le début et la séparation entre Android et Harmony OS. Alors, ce que je voudrais faire passer, le message que je veux faire passer, c'est que par-delà les bisbilles politiques, etc., etc.,
et le conflit géopolitique américain-Chine,
que tout le monde connaisse, c'est un énième épisode de la chose. Plus fondamentalement,
techniquement, technologiquement,
ce qui est important de comprendre, et si vous me permettez, je vais prendre un petit peu de temps pour l'expliquer.
Pas trop, parce que ça, vas-y, trop, c'est boost.
C'est de dire que c'est vraiment une révolution dans l'architecture, dans l'écriture. C'est-à-dire que Harmony OS invente une nouvelle langue, un nouveau langage, et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Avant, il y avait Microsoft qui avait fait un chipset et puis il avait mis un OS. Android sur du Qualcomm, Microsoft c'était Intel, il avait fait un OS. Apple a fait son propre service et Nvidia le fait avec OpenAI. Donc on avait un bout de silicium et du software dessus. Quand le software grossissait, parce qu'il y avait plus d'intelligence, on faisait grossir le silicium. Quand le silicium grossissait, on faisait grossir le software. C'est très simple. Un bout de, un bout de matière et du software.
C'était la règle de l'art dans ce système-là pour tous les opérateurs, enfin pour tous les constructeurs. Et Huawei est en train de révolutionner ça.
Mais tout ça par terre. Il casse tout ça. Et il dit, non, je ne vais pas faire ça. Je vais prendre un tout petit chipset. Un petit chipset que vous avez dans votre grille-pain, que vous avez dans votre four micro-ondes, que vous avez dans des choses simples.
Oui, anodines.
Qui n'a pas beaucoup d'intelligence. Et je vais lui mettre un peu d'intelligence de software dessus.
Donc quelques lignes de code.
Quelques lignes de code. Après, je vais prendre quelque chose d'un peu plus gros. On va dire
une trottinette, une
télévision, etc. Et je vais reprendre ce même bout d'intelligence et je vais le mettre dans ce petit truc plus gros et je vais le faire grossir pour qu'il tienne dans cette taille-là. Donc je vais mettre des fonctions supplémentaires. Mais ça veut dire que celui-ci parle avec l'autre puisqu'ils ont la même base de grammaire. Et puis là-dessus, on le prend, on va prendre un chipset encore plus gros pour un smartphone. Et là, on va prendre la chose et on va de nouveau faire grandir. Donc on a bien un système de poupée russe. C'est-à-dire que c'est pas un OS dédié, c'est un OS qu'on fait grandir. Demain, ce sera des voitures intelligentes. Après-demain, ce sera je ne sais pas quoi de plus intelligent.
Oui, un masque de VR, enfin des choses comme ça.
L'opérabilité.
Donc,
et c'est l'interopérabilité.
Et c'est l'interopérabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour être encore plus simple ? Eh bien, ça peut vouloir dire que entre une fourmi, un chien, nous et un éléphant, qui avons quatre tailles de cerveau différents, eh bien, je pourrais parler à la fourmi. C'est-à-dire que la fourmi et moi, ou la fourmi et l'éléphant vont pouvoir
se comprendront en tout cas.
Se comprendront sur des choses très simples. Et moi et l'éléphant sur des choses un peu plus compliquées. Et l'éléphant sur je ne sais pas quoi, sur des choses encore plus compliquées. Et c'est extrêmement important de comprendre ça. Parce que ça change fondamentalement la manière dont tous les objets, dont toutes les voitures, dont toutes les choses vont pouvoir travailler ensemble. Ce qui n'est pas le cas dans les architectures classiques ou anciennes.
Est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution qui pourrait inspirer, par exemple, Microsoft ? Tu parlais tout à l'heure de Microsoft, Google, Apple, etc.
Alors, d'abord, ce n'est pas les seuls à le faire. Des Américains ont déjà fait ça, mais ils n'avaient pas le poids et ils se battent contre un lobby des gros. Parce que les gros, ils ne veulent pas, justement, ils ne veulent pas que leur système soit cassé. C'est leur gagne-pain. Les gens de Huawei, ils se sont fait zigouiller.
Étant donné
ils ont dit, moi, j'ai plus rien à perdre.
Huawei, étant donné qu'il est isolé en Chine, lui, il s'est dit, j'ai plus rien à perdre. De toute façon, j'ai plus Google, j'ai plus les services américains. Je repars sur une page blanche.
Allez-vous faire voir.
François, c'est ça qui m'a particulièrement intéressé dans cette conférence. C'est plutôt l'aspect géopolitique. Et notamment sur les premiers mots du président de Huawei qui dit, c'est marrant parce qu'il fait presque un lapsus. Il dit, nous sommes une force inarrêtable. Au début de sa keynote, Et très vite, il se reprend et il dit « Nous sommes inarrêtables ». Comme si, en fait, il y avait un esprit de revanche, en fait, par rapport à tout ce qu'il a connu, enfin, tout ce qu'ils ont connu depuis 3, 4, 5 ans, entre les États-Unis qui resserrent tout, petit à petit, en fait, l'accès aux chips, enfin, à tous les chips, etc.
Oui, bien sûr.
Donc, pour moi, c'est fondamental. C'est pour moi, non pas, en fait, de la défense, c'est, en fait, une attaque de la part de la Chine en disant hey, mais Coco, vous allez voir, vous voulez pas qu'on bosse ensemble, ben voilà, on va essayer de faire mieux que vous. On copie encore, hein, parce qu'il y a quand même, on va pas se mentir, Harmony OS Next, même s'ils font un peu de marketing, en termes d'interface, c'est du Apple-like, hein, on va pas se mentir. Et donc voilà, ils disent voilà, on est au même niveau que vous. Et vous allez voir ce que vous allez voir, effectivement, tu as raison. On est déjà présent dans 900 millions de devices aujourd'hui, dans la petite fourmi que tu cites, comme dans toutes les voitures. Ils sont présents dans beaucoup de voitures, notamment donc en Chine. Donc voilà, vous allez voir ce que vous allez voir et on va être partout.
Donc
ils
sont en train de créer un nouvel écosystème.
Absolument.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont travaillé sous la contrainte et moi je les avais vus effectivement après 2019. Ils avaient... Il n'y avait pas d'angoisse pour eux. Il n'y avait pas d'angoisse. Ils venaient de se faire virer rapidement et brutalement du marché des smartphones. Ils étaient numéro un mondial quand même. Il n'y avait pas d'angoisse. On a le temps, on va reconstruire, on a le temps, on a les moyens. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce que tu dis est absolument passionnant. C'est-à-dire que maintenant, iOS et Android, c'est les représentants des 15 dernières années. Ouais. Ce qui est marrant, c'est de voir les 15 prochaines années. Ils ont dû réinventer sous contrainte, et donc ils ont été malins, et ils ont réinventé quelque chose qui va
Yves,
beaucoup
excuse-moi,
plus loin.
Juste un mot, ça ne règle pas leur problème
De
chipset 1, même s'ils arrivent maintenant à faire des chipsets de plus en plus petits, mais surtout ça ne règle pas leur problème de pouvoir attirer un marché occidental. Pour ça qu'on aura du Google, aura tous les services qu'on a actuellement. Donc malgré tout, ils sont quand même, ils vivent en autarcie technologique.
Oui, à partir du moment où tu penses application. Ouais. Tant que tu es dans la logique application,
ouais, mais l'appli,
dans le monde de l'intelligence artificielle, l'application.
C'est pas pour tout de suite, on est d'accord.
Non, mais ils s'en fichent. Ouais. Ils s'en fichent. Dans 10 ans, on en reparle. Alors moi, je serais peut-être plus sur ce très
probablement. Mais bien sûr, tu seras encore là.
Mais on en reparlera.
Peut-être même que tu seras ministre de la Tech, tiens.
Tu crois ? Bon, bah, c'est vrai que maintenant, on sait plus où on va.
Ouais.
Quitte à faire des trucs un peu fous, pourquoi pas que je sois ministre.
Pourquoi pas.
Là, ce serait vraiment.
Il faudrait que tu t'achètes un costume, en revanche.
Pauvre France. Ça, c'est pas gagné. Alors, tu me railles des listes. Non, mais comme tu dis, je pense que. Le truc incroyable, c'est que ils ont dû tout refaire, mais y compris dans leur système informatique, ils ont dû virer Oracle, etc. Ils ont dû tout refaire, repartir d'une page totalement blanche à une époque où tu crées l'intelligence artificielle. Et donc, le hasard de la chose fait qu'ils repartent d'une feuille blanche pile au moment où il fallait repartir d'une feuille blanche.
Exactement.
Mais personne ne le savait, parce qu'en 2019, personne n'imaginait OpenAI. Et donc, il repart d'une feuille blanche pile au bon moment.
Et peut-être que
c'est
Google va être handicapé par ce qu'on appelle liability. C'est
sa structure lourde un peu.
Legacy, ouais, voilà ça. Et sa structure.
Mais c'est intéressant parce qu'on parle de l'innovation et de la Chine. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la mission lunaire de la Chine a été un succès incroyable. Hein. Ils ont réussi à envoyer une fusée tout seul, hein, sans l'aide de quiconque. Cette fusée est allée de l'autre côté de la Lune. Elle a atterri, elle a récupéré de la Terre lunaire et ils ont récupéré donc des bouts de Terre lunaire. Ça a atterri, je crois, hier. Ouais. Ils ont récupéré ça.
Incroyable. Juste une chose. Pendant que j'étais en Chine, dans mon hôtel,
rapidement,
le samedi, il y avait la célébration des universités, tu sais, les remises des diplômes des universités. Donc il y avait une grande salle dans mon hôtel, ils étaient tous là, les jeunes, les papas, etc. Puis j'étais avec mon interlocuteur, je dis, oh, c'est génial ton truc. Combien il y a de gradués ? 13 millions.
Ah ouais ?
Oh, 13 millions. Et là-dedans, combien d'ingénieurs ? Oh, 5 ou 6. Chez nous, il y en a 30 000 par an. Ouais, eux, ils sont 5 ou 6 millions. Et on dit qu'on a besoin d'ingénieurs.
Bon, après, ils sont plus d'un milliard aussi. C'est
pas oui, ça. D'accord, mais oui. Quand on fait 6 millions, 5 millions d'ingénieurs par an, oui, on a une puissance de feu.
Non, mais c'est
nous, on en fait 30 000, 35 000.
C'est sûr.
Je veux dire, c'est pas pareil.
Bon, passionnant tout ça. Hein. On va rester dans la Chine en quelques instants, puisqu'on va parler de TikTok. Puisque TikTok veut créer, en fait, une puce pour l'intelligence artificielle. Pourquoi faire ? On évoquera tout ça pour la suite de ce débrief de l'ActuTex dans Tech & Co. Merci d'être là. On revient juste après l'info écho. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débrief l'actu tech ce soir avec Yves Maître, Enguerrand Renaud et Frédéric Krebs. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir sur le plateau de Tech & Co, Étienne Braque. Salut Étienne.
Bonsoir François.
Merci d'être avec nous ce soir Étienne. On va parler de TikTok, puisque ByteDance, qui est la maison mère de TikTok, et Broadcom pourraient s'associer pour créer une puce dédiée à l'IA, Étienne.
Oui, c'est en tout cas ce que croit savoir Reuters. Alors les deux groupes ne commandent pas cette information, mais c'est fort plausible, hein, puisque tous les géants de l'Internet font aujourd'hui une course à l'intelligence artificielle. Pour ça, il faut des puces. Hein, donc, il faut aller voir soit Nvidia, soit Broadcom. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Biden, c'est un groupe chinois. Et par rapport à cela, il est pénalisé dans le sens où la réglementation américaine ne permet pas d'avoir sur le sol chinois les dernières technologies américaines. Alors, on verra en plus si Donald Trump sera à nouveau élu président en novembre prochain. Mais si c'est le cas, Biden, c'est encore plus de soucis à se faire. Une fois le décor planté, bah, c'est dans ce contexte que doit se débrouiller le groupe pour avancer dans l'intelligence artificielle. Reuters donc qui évoque que Biden discute avec Broadcom pour fournir des puces. Alors Broadcom c'est une société qui est beaucoup moins médiatique que Nvidia mais qui avance ses pions dans l'intelligence artificielle au point qu'il y a un mois ils ont annoncé lancer la production de puces 3 nanomètres. C'est pour vous dire on est vraiment dans la dernière technologie de puces. Le problème c'est que Biden n'aura pas accès à cette technologie de 3 nanomètres. Ça sera 5 nanomètres. C'est la Maison Blanche qui décide. Alors à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines surtout que Reuters évoque que tout ça et des discussions préliminaires. Ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant de se mettre en place. Surtout qu'il y a un troisième acteur qui vient se greffer dans tout ça, c'est TSMC, parce que Broadcom ne fabrique pas ses puces, c'est TSMC qui les fait. Et TSMC, c'est un acteur taïwanais. Donc vous voyez, c'est un micmac géopolitique dans lequel est aujourd'hui planté ces trois acteurs, d'autant plus que les relations entre Taïwan et la Chine sont très mauvaises. Et c'est ASML qui évoquait il y a quelques semaines prévoir un plan B s'il y avait une invasion de Taïwan afin de sécuriser ces technologies, notamment en termes de gravure de dernière puce, donc les 2 et 3 nanomètres.
Merci beaucoup, c'était Étienne Brack. Messieurs, alors c'est intéressant cette news parce que évidemment tout le monde parle d'intelligence artificielle, notamment générative, etc. Mais TikTok, l'IA, ça fait des années qu'ils ont de l'IA. Quand on voit les algorithmes, la puissance des algorithmes, la qualité des algorithmes de TikTok, je suis pas en train de dire que c'est génial TikTok, mais en tous les cas, c'est efficace. Après, les abus, on les connaît, on est tous d'accord. Mais ça marche, TikTok. Je sais pas si vous avez essayé TikTok, mais au bout de 3 minutes, vous êtes complètement addict. Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur le marché des puces IA pour en faire quoi, à ton avis, Fred?
C'est assez simple, parce que en fait, comme tu le dis, il y a tout est question d'algorithme, tout est question en fait maintenant de plus en plus d'intelligence artificielle. Et pour pouvoir donner en fait le maximum de vélocité en fait à l'ensemble de ces algorithmes, ils ont besoin d'énormément de puces. Et jusqu'à présent, c'était plutôt Nvidia en fait vers lequel ils allaient se tourner pour se fournir en puces. Malheureusement, l'administration Biden a commencé en fait là aussi à resserrer en tout cas l'alimentation en tout cas, oui. Et ils n'ont plus accès en fait aux dernières puces de Nvidia, les fameuses A100 et les H100, oui. les dernières puces, toute dernière génération. Ils sont sur des vieilles technologies et du coup ils ont le sentiment de se laisser en fait distancer en fait par les Américains. Il faut pas oublier que Biden alimente aussi en algorithme donc TikTok évidemment, le Douyin qui est l'équivalent de TikTok,
qui est le TikTok chinois,
et surtout Doubao qui est l'équivalent de ChatGPT en Chine. Et qui commence à avoir déjà 26 millions d'utilisateurs.
Là, on comprend mieux que toute cette puissance de calcul pourrait aller à Doubao, qui est le ChatGPT chinois.
Exactement.
Voilà. D'autant que, je ne sais pas si tout ça rentre en, enfin, vient percuter une autre news qu'on va brièvement évoquer, c'est que, en fait, ChatGPT va se retirer du marché chinois. Et ce qui fait que si ChatGPT se retire du marché chinois et que les entreprises chinoises ne peuvent plus se servir de ChatGPT, il va falloir trouver des alternatives sérieuses chinoises. Ouais. D'où cette puissance de calcul. Tout devient peut-être un petit peu plus clair.
Non, mais ce qui m'étonne, et Étienne en a vraiment parlé, c'est ce méli-mélo, il disait, géostratégique, parce que quand on est Biden, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas acheter les dernières puces de Nvidia. Pourquoi est-ce qu'on achèterait aussi les puces de Broadcom, ou AMD, ou n'importe quel autre? À un moment, c'est vrai qu'ils sont quand même contraints par les décisions de l'administration Biden, alors on ne sait pas très bien ce que ça va devenir après le mois de novembre prochain, mais c'est assez compliqué. Et puis mettre les puces dont il a le plus besoin à Taïwan. Alors là, je reste quoi, parce que quand même tout est imbriqué en Chine, et quand même Xi Jinping ne fait pas mystère de sa volonté. Alors ça fait peur au monde entier, ça on est d'accord.
Évidemment, évidemment.
Ça ne sert peut-être pas, mais ne fait pas mystère de vouloir. Selon lui, réintégrer Taïwan et, selon les Taïwanais, envahir l'île. Et le patron de TSMC avait dit, souvenez-vous, je préfère saborder l'intégralité de mes usines plutôt que de les laisser aux Chinois. Donc, cette annonce, si toutefois elle se concrétise, pose quand même beaucoup de problèmes. Pourquoi se mettre entre les mains, enfin, rester entre les mains des Américains et se mettre entre les mains des Taïwanais? Ça pose énormément de problèmes.
Rappelons, Yves, que tu as travaillé, tu as été le patron de HTC pendant un an, boîte taïwanaise, donc tu connais bien Taïwan, tu connais bien Taipei, tu connais bien cet écosystème. Quel est ton sentiment là-dessus?
C'est vraiment un jeu dont les Chinois raffolent. Quand les choses sont compliquées, quand on fait des alliances croisées, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Et là, il y a plusieurs
barbichettes. C'est plus un jeu d'échecs. Il y a plusieurs. C'est du go.
C'est du go.
Et alors là, on n'est pas très bon. Vous assurer que les mecs, ils sont juste très bons. Alors, on va essayer de revenir à des choses basiques, de base, pour essayer de comprendre ensemble ce qui est en train de se passer. Donc, il y a deux types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle verticale, typiquement ce que fait TikTok.
Les algorithmes, on va dire.
La reconnaissance faciale, les voitures autonomes, etc. etc.
Le deep learning.
Je prends un sujet, les drones, et je mets de l'intelligence artificielle que sur les drones. C'est pas le baccalauréat, c'est pas OpenAI. Dans l'intelligence artificielle verticale, j'étais à Canton, j'ai pris un taxi sans chauffeur. Tu commandes ton taxi sans chauffeur.
Ouais, tu m'avais envoyé une petite vidéo.
Okay, j'ai envoyé une petite vidéo. Bon. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle verticale. Dans l'intelligence artificielle verticale, les Chinois sont les leaders. Pour des raisons très simples, c'est qu'il y a une puissance de calcul qui est moindre. Il faut beaucoup de données. Et la donnée en Chine, elle est assez centralisée. C'est-à-dire que la vie privée en Chine, elle est moins...
C'est pas un sujet majeur.
Elle est moins privée que la vie privée en France. Oui. On va dire ça comme ça. Donc, ils ont un avantage, ils ont beaucoup d'ingénieurs, ça demande des puissances de calcul moindres, et ils ont de la matière première, c'est-à-dire de l'information, de la donnée. Bon. Donc, évidemment, et ils sont partis bien avant tout le monde. Donc, dans ces domaines-là, style reconnaissance faciale, eh bien, quand on traverse la rue en Chine, tout le monde sait qu'on traverse la rue en Chine. Enfin, ceux qui ont accès savent qui traverse la rue en Chine et qui on est. Bon. Puis après, il y a l'intelligence générative, c'est-à-dire l'intelligence, ce qu'on appelle, nous, l'intelligence au sens OpenAI du terme. Là, ils sont en retard. Ils sont en retard parce qu'ils n'ont pas vu venir. Ils sont en retard parce qu'ils n'ont pas la puissance de calcul. Et ils sont en retard parce que la linguistique chinoise n'est pas la même linguistique que la linguistique française. Nous, on est dans des grammaires. Donc, on sait faire de la vectorisation, si on rentre dans les détails mathématiques de
l'IA générative,
on sait faire de la vectorisation et des calculs sur des vecteurs de grande puissance. Comme leur dialectique est différente, parce que c'est des signes...
C'est une autre recette.
C'est une autre recette. Et c'est une recette qui est, semble-t-il, un peu plus compliquée. Donc ils sont en retard. Et ils veulent rattraper leur retard. Alors, pour rattraper leur retard, l'idéal, ce serait d'avoir ces fameuses puces rapides. Bon.
Un peu comme Microsoft qui achète des dizaines de milliers de puces Nvidia, voilà, par exemple. Ouais.
Mais
ça, ils n'ont pas le droit.
Maintenant, ils n'ont pas le droit. Donc, d'abord, j'essaie de contourner le droit. Si je ne peux pas passer par la porte, je vais passer par la fenêtre. Bon. Imaginons qu'on bloque tout. Ils vont se dire, OK, je suis bloqué. Je vais repartir d'une feuille blanche. Parce que de nouveau, ils vont faire la même mécanique.
Oui, ce qu'ils ont fait sur Harmony OS, c'est exactement ce que tu avais décrit.
Alors, quelle va être la feuille blanche ?
Ça va prendre du temps.
Ça va prendre du temps, mais ils vont le faire.
Mais ils vont le faire.
Ils vont le faire. Donc, première chose, c'est de dire, tu sais quoi ? C'est juste pas grave. Si ma puce, elle peut pas courir aussi vite, je vais mettre deux puces ou trois puces à côté. Ouais, mais ça consomme beaucoup plus d'électricité.
Pas grave.
On s'en fout, on a des centrales nucléaires comme on veut. Et puis, le leader dans la fusion nucléaire, ce sont les Chinois. Donc, en plus, l'énergie, on va très probablement encore dépasser tout le monde avec la fusion. Donc, le problème de l'énergie n'est pas un gros problème en Chine. Je fais des centrales nucléaires en plus et j'ai l'énergie. En veux-tu ? En voilà. Bon, OK, très bien. Deuxièmement, la data, ils l'ont aussi. Imaginons que... Et c'est probablement ce qu'ils vont faire. Et d'ailleurs, ils construisent des centrales nucléaires, en veux-tu, en voilà. La deuxième chose, c'est de dire, ben, je vais faire autre chose, je vais repenser les chipsets. Et ils sont en train de travailler sur une technologie américaine, d'AMD, qui sont des chiplets. Ouais. Pas un S, mais un L. J'ai eu l'occasion d'aller voir un des leaders des chiplets en Chine, lundi, lundi dernier, il y a une semaine. J'ai été sidéré. J'étais avec d'autres Français, patrons aussi, enfin d'entreprise. On a été scotchés de voir ce qu'ils arrivaient à faire avec les chiplets. Donc, tant bien même le jeu du « je te tiens par la barbichette », le jeu de cet embroglio géopolitique tournerait en leur défaveur.
Ils ont leur
ils
plan
ont
A, finalement. Ils n'ont même pas un plan B, c'est leur plan B et un plan C. C'est ça.
Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Chinois, en fait, ils ont la maîtrise du temps long. La science du temps long. Parce que nous, occidentaux, on a un peu oublié. On parle de quarter, on parle d'année en année. Mais les Chinois, c'est sur des dizaines d'années.
Ils sont moins individualistes que nous. C'est-à-dire que eux, c'est une progression de leur société, même si ils disparaissent finalement. C'est la croissance qui perdurera, quoi qu'il arrive.
C'est une notion de temps, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est extrêmement important. C'est ce que tu disais aussi. On a un problème sur les OS, on a le temps et on va le résoudre. Et alors, la notion de temps, c'était les OS, c'est 2019, 2020, 2024.
Non, ils ont mis 4 ans, quoi.
Ils ont mis 4 ans.
Ça ne prend que 4 ans. Ils ont un problème sur l'intelligence artificielle générative et les chipsets de dernière génération. Ça, dans 4 ans, ce problème est réglé. Absolument. Donc, ils le savent et ils sont pas très énervés, effectivement, précisément parce qu'ils sont pas sous la pression ou moins, je sais pas, mais moins sous la pression du quarter et du profit à court terme.
Il faut pas oublier aussi qu'ils ont non seulement ils ont le temps, mais aussi ils ont les ingénieurs qui vont avec.
C'est ça.
Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure.
Ouais, ouais.
C'est pas en dizaines de milliers, c'est en
dizaines de millions.
Donc en fait, si tu comptes en temps homme, en temps ingénieur, ça réduit.
Juste pour que les téléspectateurs se rendent compte, les ingénieurs. La Chine a formé en 20 ans, hein, donc 2020, 2004, 2024. Ils ont formé en 20 ans autant d'ingénieurs que l'Europe a formé dans toute son histoire.
Et oui.
Donc, vous prenez tous les pays européens, depuis qu'il y a une formation d'ingénieurs, ils ont formé en 20 ans autant d'ingénieurs que l'Europe dans toute son histoire. Ces ingénieurs, ils ont été formés il y a 20 ans, donc les plus vieux ont 45 ans.
Et ce qui est incroyable derrière tout ça, c'est que toutes ces punitions, en fait, tous ces obstacles qu'on impose à la Chine, en fait, ça les galvanise. C'est-à-dire que c'est plus que de la résilience, c'est-à-dire que c'est des défis qui les motivent encore plus à aller plus fort, on a l'impression. C'est dingue, hein, finalement. Je pense qu'ils n'ont jamais été aussi réveillés que depuis qu'ils subissent, en fait, toutes ces interdictions américaines. C'est l'impression que j'ai.
C'est la loi de tous les peuples. Hein.
Oui, oui, oui.
Quand tu mets un peuple sous contrainte, le jour où il peut se libérer de sa contrainte d'une manière ou une autre, il a un petit côté revanchard.
Nous,
Français.
Mais pareil.
Pareil, même chose, même
c'est important, cette histoire de revanche, parce que ça remonte à très loin. Hein. Si on regarde dans l'histoire, ça remonte en fait au sac du palais d'été, à la fin du 19e siècle, au nord de Pékin. Ça vient de loin, en fait. Hein.
Ça, c'est un peu le discours officiel.
C'est un vrai discours sac du palais d'été et puis après Pékin où effectivement les 55 jours de Pékin.
Je me méfie en ce moment de la manière dont on s'approprie dans des discours les éléments historiques. Je pense que par-delà, t'as peut-être raison, moi je suis pas historien, mais je connais le discours officiel de la Chine. Je pense qu'il faut le regarder avec nuance, ok ? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas faux. Ça en fait partie. Le sac du palais d'été, il a été fait par les Français et les Anglais. Bon. Cela étant, je pense que quand un peuple est sous contrainte, quelle que soit la contrainte, quand il peut se libérer, il y a toujours un esprit de revanche. Et on le voit quotidiennement, malheureusement.
Allez, il nous reste une bonne dizaine de minutes, on va s'intéresser à Netflix. Alors pourquoi parler de Netflix ce soir ? Parce que, vous le savez, Netflix est en train de changer de modèle petit à petit. Netflix, à l'époque de son patron fondateur, c'était un service premium qu'on payait relativement cher et qui nous permettait d'avoir plusieurs écrans simultanés, de la 4K, les derniers raffinements technologiques et évidemment accès à tout le contenu. Et puis, petit à petit, en fait, ce modèle a changé pour inclure de la publicité et avoir un abonnement moins cher, qui est un carton d'ailleurs. Hein. Tout le monde criait au début au scandale que ça ne marcherait pas, etc. Ben, en fait, Netflix a eu la vista. Hein. Aujourd'hui, ses abonnements à 6 euros plus de la pub cartonnent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite musique qui tourne actuellement, et Fred, évidemment, tu vas revenir sur tout ça, c'est que Netflix pourrait devenir, dans certains pays, totalement gratuit. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est envisageable ?
Alors, on peut tout envisager avec Netflix.
Rappelons tu as été patron d'Allociné, hein, c'est pour exactement. Ça aussi que tu connais un peu tout ce monde des médias.
Voilà, donc effectivement, je connais bien cet univers et en particulier Netflix. Hein, on a bossé avec eux quand ils sont arrivés en France. Et je parle de ça, c'est presque plus de 15 ans.
2004.
Et en fait, c'est intéressant effectivement ce qui se passe en ce moment parce qu'ils ont lancé cette initiative de mettre de la pub. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans le dernier trimestre 2022. Tout le monde criait, faisait des cris d'orfraie. Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne peut pas avoir de la pub sur Netflix. On paye déjà suffisamment cher, etc. Alors ils ont créé cette nouvelle offre, hein, une offre d'entrée de gamme à 5,99€, et ce qui leur a permis effectivement de commencer en fait à rentrer et à pénétrer le marché. Maintenant, quand on regarde aujourd'hui, donc plus d'un an et demi après, Est-ce que c'est une bonne chose? Alors oui, c'est une bonne chose sur le papier, parce qu'ils disent, voilà, on a fait plus 9 millions de comptes qui ont été ouverts. Mais quand on regarde les revenus qu'ils en tirent, d'après ce que j'ai pu trouver dans leur dossier, ils font 200 millions de dollars sur le dernier trimestre. 200 millions de dollars sur la pub, hein, je parle vraiment uniquement...
Donc des écrans pubs qui s'affichent,
exactement.
Ça a apporté comme recette 200 millions de dollars, au niveau mondial.
Un trimestre au niveau mondial. D'accord. Donc ce qui est pas énorme, Et ils ont commencé le premier, enfin la courbe de croissance en fait elle est extrêmement faible. Hein, le premier exercice, enfin le premier trimestre qu'ils ont fait en 2022, c'était 85 millions de dollars. Donc vous savez, en un an et demi, ça va pas très vite. Donc et d'ailleurs ils ont remercié il y a quelques mois le patron de la pub de chez Netflix pour le remplacer par quelqu'un d'autre, parce que justement il n'arrivait pas à délivrer. Alors après, il se protège en disant ouais, mais parce que nous on est premium, on vend plus cher la pub, donc c'est pour ça on y va tranquillement, on veut pas en mettre trop devant les yeux des spectateurs.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une chose importante, hein, ils l'ont toujours dit, il y aura pas autant de pubs que dans les télévisions traditionnelles, c'est-à-dire qu'il y a quoi, il y a 2 minutes de pub je crois par programme, non,
c'est ça, donc
c'est beaucoup moins que sur les chaînes broadcast traditionnelles, beaucoup moins qu'aux États-Unis.
Mais si tu compares ça avec Amazon donc Prime Video, dans le quasiment le même temps, enfin même ils ont démarré plus tard, ils sont déjà sur une route à 1 milliard de dollars en fait à l'année, hein, donc ils sont un peu plus
de publicité
haut, de publicité, donc ça fait à peu près 250 millions par an de dollars au trimestre. Donc ça veut dire que déjà Amazon a pris l'ascendant en fait sur Netflix. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui cette annonce qui est faite sur le tout gratuit.
Alors après c'est pas tout à fait les mêmes chiffres si je puis me permettre, parce que Prime Video, enfin Prime Video fait partie de l'offre Prime que énormément de gens ont en fait, c'est
exactement.
Ça. Et la force d'Amazon, c'est que par défaut on vous met de la pub dans l'offre Prime, mais si vous voulez plus de pub, vous êtes obligé de rajouter 2 € par mois.
Et c'est ça qui est malin, et c'est ça qui est extrêmement malin, parce qu'ils ont pris le contre-pied inverse.
Ils font l'inverse.
Exactement, ils ont fait l'inverse de Netflix. Au lieu de créer en fait une offre supplémentaire, ils ont juste dit ben voilà, on va mettre de la pub. Et si vous en voulez pas, il y a une option qui existe.
À 2 euros.
À 2 euros, hein, 1,99 €. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, Prime Video, c'est à peu près le prix d'Apple Plus, par exemple. Apple TV Plus. Donc, vous voyez, donc, tout ça, c'est un petit jeu, en fait. Voilà, on teste des choses, etc. Alors, est-ce que
justement, cette idée de Netflix totalement gratuit, tu y crois ou pas?
Écoute,
alors,
j'y crois, Enguerrand, peut-être sur certains territoires.
C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Hein.
Exactement, notamment l'Allemagne par exemple,
oui.
qui a une culture
de la publicité,
qui a une culture presque de la gratuité. Où là,
comme ça... les Français un peu aussi, non finalement.
Parce alors,
que,
oui,
alors on a Canal Plus, mais les chaînes TF1, etc. Même nous d'ailleurs, hein, on est financé par la pub. Il y a de la pub. Ça pourrait peut-être marcher aussi en France.
Alors oui, mais pour l'instant, en tout cas, on n'en parle pas. En tout cas, sur le territoire français, c'est plutôt pour l'Allemagne, pour certains pays africains que vous soyez, ils vont tester des choses. Mais moi, pour l'instant, je n'ai pas trouver d'allusion en tout cas sur des territoires bien précis, en tout cas en Europe, en dehors de l'Allemagne et peut-être des pays nordiques. Donc il y a ça qui rentre en ligne de compte. Il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que Netflix, sur ce terrain-là, ils ne se battent pas pour avoir des clopinettes. En tout cas, ils se battent aussi contre des mastodontes. Et mastodontes, en fait, aujourd'hui, ça reste YouTube. Et YouTube aujourd'hui, c'est eux qui, en tout cas, accaparent.
Fait la mise, ouais.
Là, on parle de plusieurs milliards. On est à plus de 8 milliards hein, par trimestre de revenus. Donc c'est énorme. Alors on parle pas du même type de pub, on est d'accord. Mais ça reste en tout cas l'étoile polaire en tout cas de nos amis de Netflix.
Alors je vais donner la parole à Enguerrand bien sûr dans un instant, mais ce qui me fait doucement rire, c'est que finalement tous ces services de vidéo qui étaient complètement disruptifs il y a encore quelques années reprennent finalement le train de la bonne vieille télé traditionnelle. Ils se mettent presque tous au direct, ils se remettent tous à mettre de la pub dans leur programme, comme les chaînes qu'on connaît, quoi.
Enfin, toujours. Je veux pas te décevoir, mais l'idée d'un Netflix totalement gratuit me paraît totalement absurde. Pourquoi? Parce qu'il faut reprendre les chiffres. C'est ce que tu disais. Ils font 200 millions d'euros de dollars de chiffre d'affaires. Admettons, donc ça fait à peu près 800 millions, disons 1 milliard par an. D'accord? Netflix dépense 17 milliards de dollars dans les programmes. Donc, le modèle financé par la publicité et entièrement financé par la publicité, c'est impossible. C'est totalement impossible. D'accord ? Et donc, le seul vrai modèle...
Oui, mais en complément d'abonnement premium, oui, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui seraient prêts à payer pour ne pas avoir de pub.
Ce qui est très intéressant, quand est-ce qu'ils ont lancé ça ? Tu disais, il y a un an et demi. Il y a un an et demi, ils avaient un problème de relais de croissance.
C'est vrai.
Ça a commencé trimestre après trimestre, et là, on revient sur...
Ils avaient fait plein des abonnements premium.
Oui, non, et ils ont fait deux choses en même temps.
Deux.
Une première chose, mettre de la pub, enfin une offre avec de la pub. Une deuxième chose, c'est-à-dire, c'est resserrer les conditions du partage de compte. Et qu'est-ce qu'a gagné ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont repartis en c'est pas la pub, c'est le fait qu'ils ont effectivement resserré les conditions de partage de compte. Et donc là, ils ont gagné des abonnés. D'accord ? Il y a 270 millions d'abonnés chez Netflix, il y en a 38 millions en pub. Et donc, ils ont gagné sur les trois derniers trimestres, grâce au resserrement, ils ont gagné à peu près 27 millions d'accord, d'abonnés payants. Mm-hmm. Leur business, c'est la SVOD. C'est pas ce qu'on appelle la VOD. C'est la VOD, c'est un business, c'est un autre business, mais c'est beaucoup trop petit. C'est pas à leur niveau.
Mais c'est vrai qu'après, il faut arriver à financer ces 17 milliards de création annuelle.
Mais comment financer 17 milliards annuels de contenu avec de la publicité? Il n'y a pas le marché.
C'est autant,
l'abonnement, il y a du marché. Voilà.
C'est autant que tous les studios réunis, en fait,
oui.
Qu'ils investissent.
Ouais. Donc en fait, c'est moi, je ne crois pas une seconde. Alors, ils ont fait du fine-tuning. Bon, Reed Hastings, il avait toujours dit, le fondateur, jamais de mon vivant, il est toujours vivant, pardon, jamais, tant que je dirigeai Netflix, on mettra de la pub. Ted Sarandos, avec qui il a monté, une fois qu'il a écarté Reed Hastings, il a commencé à mettre de la pub. Mais c'est epsilonesque.
Puis après, tu as le conseil d'administration, okay, qui se réunit pour étudier les comptes, puis qui dit au CEO, tu sais quoi ? Regarde, ta croissance, elle est où ? Le CEO, il dit, faut qu'on trouve des solutions. Et donc, ils discutent des solutions. Ouais. Donc, il y a, j'augmente mes prix, je fais des films de qualité meilleure, et bien entendu, comment je génère des revenus via la pub, et comment je fais ? Et je pense qu'il y a une vraie interrogation au sein du conseil d'administration, et donc des actionnaires, qui veut dire, c'est quoi la prochaine marche ? Non pas de films, etc., mais de revenus et de dividendes pour continuer à soutenir le cours de bourse. Il est là, le problème.
Tiens, puisqu'on parle de pub, un mot quand même sur X, anciennement Twitter. Ça sera pour terminer. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, mais vous savez que Elon Musk avait débauché Linda Yaccarino, qui est une pubarde très haut de gamme, quand
NBC
même.
NBC Universe.
Dans les grands networks américains, qui est arrivée il y a peut-être un an et demi, quelque chose comme ça, et qui, visiblement...
Il y a pile un an.
Un an, voilà. Ouais. Mais, et qui, visiblement, n'a plus trop les faveurs d'Elon Musk, d'après ce que j'ai compris, parce que la pub ne rentre pas sur X. Alors, c'est pas de sa faute, la pauvre. Elle subit les frasques et les sautes d'humeur d'Elon Musk qu'on vit.
Il aide pas, quand même.
En direct. Et donc, là, ça fait un an qu'elle tient le coup, la Linda. Et à mon avis, ça va pas être facile, quand même, de vivre au quotidien avec un Elon Musk qui fait tout ce qu'il fait sur un média dont vous vendez la publicité. Et donc, là, c'est l'info qu'on dit, que voilà, ça sentirait le gaz entre eux deux.
Ouais, en fait, il faut voir aussi. Donc, elle est arrivée il y a un an et un mois. Elle a essayé, mais effectivement, à chaque fois qu'elle essaye de normaliser, j'allais dire, les relations avec les annonceurs,
derrière
Elon Musk, il remet. La véritable question, c'est est-ce qu'elle a intérêt à rester ou à partir avant les élections américaines. Parce que les élections américaines, ça va être le moment de vérité pour X. Ça va être un moment d'ultra-violence. Elon Musk n'est plus neutre.
Oui, il prend parti ouvertement.
Il prend parti, ça va être extrêmement violent. Et donc, il va y avoir un
après, il y a des médias qui prennent parti. Fox News, par exemple, aux US, et la pub, elle est là, finalement. Sauf que, il y a de la désinformation, il y a des choses qui ne sont pas très jolies. Voilà, c'est ça.
Donc, normalement,
il y a plein d'annonceurs comme Apple, par exemple, qui ne reviennent pas.
Exactement.
Ne veulent pas revenir.
Non, je pense que si elle ne veut pas définitivement ruiner sa carrière, qui était déjà très belle et qui s'annonce encore prometteuse, elle aurait plutôt, elle, intérêt à partir avant les élections.
Oui, alors. Il ne reste que quelques secondes.
On parle de la dissolution d'un couple.
Oui, c'est ça.
Encore dans un système de dissolution. La question, c'est à quel moment il faut le faire.
Je suis
absolument d'accord. Parce que de toute façon, c'est fini.
Fini.
Je veux dire, quand un président et un CEO ne s'entendent pas, il faut tirer.
Ça ne peut pas rester longtemps.
Donc la question, c'est quand. Et ça, c'est le gouvernement américain qui décide. Parce que c'est tellement important en ce moment qu'elle n'a pas le choix. Elle est prisonnière de l'agenda politique.
Après, bon, c'est vrai qu'ils étaient à Cannes Lions ensemble. Bon, voilà. En façade, ça allait, mais visiblement.
Non, mais ce qu'ils ont dit.
C'est plus compliqué que ça.
Ils ont dit est très inquiétant si tu reprends. Ils sont arrivés avec une soi-disant bonne nouvelle. 60% des annonceurs qui étaient partis sont revenus, mais ils mettent moins d'argent.
Ils mettent moins d'argent, c'est ça.
Si tu fais juste une petite règle des trois, il manque encore 50% du chiffre d'affaires. Ouais. Donc, en fait, le coup est parti. On retrouvera pas. Alors, il s'est fait voter une rémunération de 50 milliards. C'est bon, il a pu rembourser X, enfin le rachat de Twitter. Mais c'est pas un business maintenant.
Fred, pour terminer là-dessus.
Non, écoute, c'est juste triste en fait. Moi, j'étais un fan de Twitter. J'appelle ça encore Twitter. Je ne reconnais plus en tout cas le réseau social que j'avais chéri pendant tant d'années. Voilà, c'est juste pour moi un immense gâchis.
Merci beaucoup à tous les trois. Ça sera le mot de la fin de ce débrief qui était passionnant. Merci à Yves Maître, Operating Partner Jolt, Capital et consultant, ancien PDG de HTC. Merci à Enguerrand Renaud, consultant chez Imachette et ancien journaliste au Figaro. Merci Enguerrand et merci à Frédéric Krebs pour ton analyse concernant entre autres Netflix et puis surtout les autres sujets. Tu es CMO de Serena, ancien partenaire Newfound et ancien directeur général d'Allociné. Vous restez avec nous. On va revenir dans quelques instants avec pour notre dernière demi-heure de Tech & Co. Deux mastodontes partenaires des JO, Orange et Samsung. Et vous allez voir que, évidemment, les télécoms et les smartphones, on fait des choses ensemble. J'aurai deux porte-parole de ces sociétés dans un instant, juste après Léa Benaïm pour le Tech Flash. Merci d'être avec nous sur BFM Business. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Voilà, Orange et Samsung préparent. J'allais dire de manière assidue, c'est le moins qu'on puisse dire, les JO de 2024. On va en parler dans un instant avec mes deux invités. William Gay nous rejoint aussi dans quelques minutes, qui est journaliste à la rédaction de Tech & Co. Mais dans l'immédiat, à 21h04, c'est Léa Benaïm qui nous a rejoint. Bonsoir Léa.
Bonsoir François.
Journaliste et productrice de Tech & Co, évidemment sur BFM Business. Et avec Léa, vous le savez, chaque soir, ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce mardi. Bonsoir Léa.
Et à la une, Huawei et Android, c'est officiellement terminé. Le géant chinois a dévoilé sa nouvelle version d'Harmony OS, son système d'exploitation. Pour rappel, depuis 2019, Huawei n'a plus le droit d'utiliser du matériel et des logiciels américains, dont Android. Le constructeur a donc boosté son système maison pour se séparer définitivement de celui de Google. Lancé il y a 5 ans, Huawei revendique déjà plus de 900 millions d'appareils fonctionnant sous Harmony OS dans le monde. Le seul nuage, le nombre d'applications disponibles. Il faut encore convaincre les développeurs pour aller sur cet écosystème. Également, dans l'actualité, OpenAI veut rompre définitivement ses liens avec la Chine. L'entreprise de Sam Altman va couper l'accès à ses outils pour les développeurs, car même si ChatGPT n'est pas disponible dans le pays, de nombreuses startups utilisent son API. Mais à partir du 9 juillet, les développeurs chinois ne pourront plus y avoir accès. Et à la suite de cette annonce, Baidu et Alibaba n'ont pas perdu de temps. Les géants chinois proposent désormais la migration sur leur plateforme, tout ça gratuitement. Amazon travaille sur un concurrent de ChatGPT, un service accessible via navigateur sur le modèle de Gemini ou de Copilot. Son nom de code, Métis, et d'après Business Insider, son point fort serait sa base de données. Contrairement à ses concurrents, Métis pourrait accéder aux informations en temps réel. Ce projet serait supervisé en personne par le PDG Andy Jassy. Et avant de terminer ce journal, un peu d'histoire. Une pionnière française de l'informatique et de l'IA va donner son nom à un supercalculateur. Alice Recoq, décédée en 2021, elle est connue pour avoir participé à la création des premiers mini-ordinateurs, les Mitra 15. C'était dans les années 70. L'objectif à l'époque, assurer l'indépendance informatique de la France face à la puissance technologique américaine. Attendu pour l'année prochaine, c'est la première fois qu'un supercalculateur français va porter le nom d'une femme. Et pour finir, retour sur la Summer Game Fest, le débrief des annonces à retrouver dans l'émission Multijoueur avec Mélinda Davansoulas. Une émission à retrouver en replay et en podcast sur la plateforme Tech & Co. Et on écoute tout de suite un extrait.
parle beaucoup, on compare beaucoup la Summer Game Fest et l'E3. Est-ce que la Summer Game Fest va arriver à atteindre le niveau de l'E3 en termes de dimension, d'écho, etc. Ça paraît difficile aujourd'hui, mais Xbox a placé la barre très très haut. Et c'est vrai qu'on n'a pas respiré une seule seconde. Il y avait un bon rythme. Les prises de parole de Phil Spencer, Mark Butti, Sarah Bond étaient, je trouve, hyper dynamiques. Ils étaient souriants. Sarah Bond, qu'on
sur
avait
des points importants,
sur des points très importants. Et Sarah Bond, qu'on avait senti un petit peu stressée sur les dernières prises de parole parce que c'était un petit peu compliqué. Là, elle était bien.
Phil Spencer, qui avait disparu depuis 2 mois, 3 mois.
Il s'exprimait plus.
Il s'est juste là, prise de parole importante sur un point très important parce qu'ils ont ouvert la conférence là-dessus. Call of Duty Black Ops 6, il a été très clair, même jeu pour tout le monde, en même temps. J'ai bien aimé ce petit tacle déguisé à PlayStation qui avait pris l'habitude d'avoir Call of en avant-première, des contenus exclusifs et dagna. Tout le monde logé à la même enseigne. Bon, il s'est quand même gardé la petite prio. Ce sera sur le Game Pass Day One.
Voilà, l'excellente émission multijoueur présentée par Melinda, retrouvée sur la plateforme Tech & Co, bien sûr, sur le site de BFM Business et sur l'appli RMC BFM Play. 21h08, direction tout de suite justement la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Et on accueille le digne représentant de cette rédaction, c'est Willem Gay. Salut Willem.
Bonsoir François.
Merci d'être avec nous. Alors on va parler de Coco, car Coco... Ben, c'est finito, si je puis me permettre. La plateforme, tristement célèbre pour son implication dans de nombreux crimes, vient d'être fermée. Willem, ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'interpellation de ses dirigeants, la fin d'une longue période d'impunité pour ce site.
Oui, François, c'est presque un tournant dans la lutte contre la cybercriminalité, finalement. Après 20 ans d'activité, les deux dirigeants de Coco passeront finalement par la case justice française. Le propriétaire, décrit comme un discret ingénieur, a été arrêté à l'étranger, tandis que sa femme a été placée en garde à vue dans le Var. Tous deux avaient tenté de fuir la justice française en changeant l'immatriculation du site Coco vers Guernesey. Vous savez, c'est cette petite île entre la Normandie et la Grande-Bretagne. Une manœuvre qui devait les mettre hors de portée des autorités françaises. Sans succès, finalement, le travail d'une coalition européenne l'a emporté sur les malfaiteurs.
Parce que finalement, c'est une enquête ouverte en décembre 2023 qui a permis de faire tomber la plateforme Coco. Mais au fait, on lui reprochait quoi à ce site ?
Eh bien, d'être un véritable catalyseur pour une multitude de crimes. Pédocriminalité, proxénétisme, prostitution, viol, trafic de stupéfiants et même des homicides. Depuis la création du site en 2003, l'absence flagrante de modération le permettait et avait permis ces activités illégales. Entre 2021 et 2024, plus de 23 000 procédures judiciaires liées à Coco ont été ouvertes, impliquant 70 parquets à travers la France, c'est énorme, et faisant 480 victimes identifiées. Alors oui, la fermeture de ce site est une grande victoire pour la lutte contre la cybercriminalité et les dérives potentielles liées aux plateformes sociales. Et Coco, c'est de l'histoire ancienne désormais.
Et c'est pas plus mal. Merci beaucoup Willem Gay de la rédaction de Tech & Co pour en savoir plus sur ce sujet tombé aujourd'hui. Vous allez sur le site de Tech & Co, bien sûr. Il est 21h10, on va terminer cette émission avec les JO et deux partenaires des JO, des partenaires technologiques qui vont tout donner dans quelques jours.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Et oui, et ces deux partenaires, c'est Orange et Samsung. Laetitia Orsini, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice grand public d'Orange France. Et à vos côtés, Jérôme Bloch qui est avec nous. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir François.
Directeur marketing et stratégie de Samsung Electronics France pour la division Mobile Experience. Et oui, pourquoi tous les deux ? Alors évidemment, il y a énormément de partenaires technologiques durant ces JO. Mais vous, vous allez travailler conjointement pour faire des choses assez intéressantes. On va en parler. Évidemment, votre dénominateur commun, c'est la 5G. Ce sont les smartphones. Peut-être, Laetitia, un mot quand même sur ce challenge. Voilà, Orange va tout donner pendant ces JO. C'est un moment hyper important pour vous. Voilà, vous êtes l'excellence des réseaux françaises. Vous avez évidemment la lourde charge d'assurer les connectivités pour des millions de gens qui vont être dans la capitale et pas que, parce que évidemment les JO c'est un peu partout. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes prête ? Mais je suis sûr que oui.
Mais bien sûr, nous sommes prêts. Alors c'est vrai que c'est un immense défi, mais c'est surtout une immense fierté pour Orange d'être effectivement partenaire premium, mais surtout fournisseur officiel de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Alors vous fournissez quoi en fait ? La connectivité, c'est ça ?
Oui, alors peut-être pour préciser, à la différence des jeux de Tokyo, par exemple, dans lequel il y avait 5 opérateurs qui assuraient la connectivité, cette fois-ci, et ça c'est la première fois dans l'histoire des JO, Orange sera le seul à connecter l'ensemble de la compétition et de permettre ainsi aux 4 milliards de téléspectateurs quand même, qui vont regarder cet événement, de vibrer ensemble. Voilà.
Donc si on a les images sur la télé qui apparaissent, c'est un peu grâce à vous ?
Ah, mais c'est tout à fait grâce à nous.
D'accord.
Nous allons connecter 120 sites, que ce soit les grands stades, comme l'Orange Vélodrome, mais aussi des sites un peu emblématiques, comme les Invalides.
Oui. Et puis les nouveaux sites, les sites éphémères, etc.
Absolument. Voilà, donc c'est un immense défi. Et on va le faire, ça, grâce, effectivement, à plus de 1000 techniciennes et techniciens d'Orange qui vont être mobilisés pendant l'événement, qui le sont déjà, en fait. Et j'en profite pour les saluer et les remercier de leur engagement.
Ça fait combien de temps en fait que vous travaillez sur cet événement ?
Ah, ça fait très longtemps. En fait, il y a souvent une passation entre l'événement précédent des Jeux Olympiques de Tokyo pour tirer tous les enseignements et préparer l'événement suivant. Donc ça fait très longtemps. Nous avons hâte maintenant.
Oui, c'est bientôt. Ce qui est intéressant, c'est que vous préparez même votre réseau. Alors évidemment, vous avez installé des antennes supplémentaires dans Paris pour justement essayer de décongestionner et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir une bonne connectivité. Vous avez même fait quelque chose d'assez intéressant, un geste technique auprès de tous vos abonnés qui passent gratuitement en 5G durant l'été, enfin durant les JO, pour soulager justement la 4G, parce que la 4G, elle va être, on va dire, complètement prise par évidemment tous les étrangers qui vont venir avec un téléphone 4G. J'imagine que c'est pour ça que vous avez libéré la 4G et offert la 5G à vos abonnés, c'est ça ?
Alors en fait, on fait effectivement deux choses. Il y a ce qu'on fait pour le comité d'organisation et la retransmission, effectivement la connexion de l'événement lui-même. Et pour ça, comme vous l'avez dit, nous avons renforcé la couverture sur l'ensemble des sites qui vont accueillir l'événement. Nous avons aussi, et ça c'est une première, développé des services sur des infrastructures de 5G privées, par exemple pour la cérémonie d'ouverture au Stade de France, à l'Accor Arena. Et ça permet, parce qu'on a une gestion personnalisée, de pouvoir garantir en fait aux diffuseurs, par exemple, qui sont nos clients, et bien d'avoir une qualité de service premium, parce que vous allez pouvoir avoir un débit plus important, plus stable, en particulier pour le remontant, et ça c'est extrêmement important pour pouvoir envoyer les images.
Et c'est intéressant aussi pour Samsung,
HD.
On en parlera tout à l'heure.
Absolument.
D'ailleurs.
Et également une latence qui est beaucoup plus faible, et ça vous permet d'avoir vraiment les images quasiment en direct. Bon, et en plus il y a embarqué dans la technologie des questions de sécurité, native. Donc ça c'est tout ce qu'on fait effectivement pour garantir une qualité pour l'événement. Et puis il y a ce qu'on fait pour le grand public, et donc comme vous le mentionnez, effectivement nous avons décidé d'offrir la 5G à l'ensemble de nos clients. Alors évidemment il faut avoir un téléphone compatible 5G pendant toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. L'objectif c'est de pouvoir proposer à nos clients la meilleure expérience possible, parce que la 5G c'est moins de latence, c'est plus de débit, plus de rapidité. Donc pour regarder l'événement par exemple sur son smartphone en mobilité, ça permet de le faire de manière beaucoup plus confortable. Donc c'est d'abord pour proposer une expérience de très bonne qualité.
D'accord.
À nos clients.
Mais c'était pas aussi pour libérer les fréquences 4G pour l'afflux de touristes qui vont venir,
évidemment,
et qui vont se retrouver en roaming évidemment en 4G.
Ces touristes qui vont arriver, on attend quand même
beaucoup
de monde. Donc ça va permettre effectivement d'équilibrer, mais je crois que c'est avant tout pour nous ce sujet de pouvoir faire goûter à la 5G d'Orange à nos clients et leur permettre de vivre une expérience.
Vous dites goûter parce que après ça va s'arrêter en théorie, c'est-à-dire qu'à la rentrée, évidemment, la 4G reviendra et les abonnés 4G retourneront en 4G et n'auront pas la 5G. C'est intéressant de voir d'ailleurs que la concurrence, SFR notamment, a décidé de passer tous ses abonnés en 5G de manière définitive. Donc ça va être intéressant de voir en septembre comment vous allez réagir justement, parce qu'on se rend compte que la 5G est en train de se démocratiser finalement. Est-ce que ça vaut le coup de toujours premiumiser cette technologie alors que finalement elle est offerte par tous les autres opérateurs? Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Débat, mais c'est vrai que nous on considère que quand il y a de la valeur effectivement perçue du client parce que l'usage est facilité, il y a forcément une forme de valorisation.
Très bien, alors on va donner la parole maintenant à Jérôme, parce que autre partenaire prestigieux en fait de ces JO.
Partenaire mondial.
Partenaire mondial des JO, c'est Samsung. Alors Samsung, c'est des smartphones et qui, entre autres, hein, bien évidemment, c'est les télévisions. Comment vous allez, quel est le, on va dire, le partenariat que vous avez monté avec les JO chez Samsung?
Alors l'historique en fait est assez intéressant puisque ça a commencé en 1988 à Séoul où on a eu notre premier partenariat local et ensuite on est devenu partenariat global. Donc partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, à partir de Nagano en 1998. Donc ça fait plus de 30 ans
qu'on a cette histoire. La 5G n'était pas née.
Alors, l'intérêt en fait de ce partenariat, à la base, en fait, c'était surtout à l'époque de faire de Samsung une marque mondiale. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé. Et donc, on a travaillé énormément, en fait, donc la montée en puissance de la marque, en fait, jusqu'aux années 2010, début 2011, où on est devenu numéro un mondial sur le marché des smartphones. Et depuis donc une dizaine d'années maintenant, on travaille surtout sur le positionnement de la marque, sur le réchauffement de celle-ci et sur le fait de se retrouver plus proche de nos clients, de nos consommateurs. Et c'est aussi ce qui va nous amener en fait à développer des activités avec Orange, énormément en termes commerciaux, on va dire.
D'accord.
Parce qu'on travaille en partenaire depuis aussi pas mal d'années. Et puis là, sur cette cérémonie d'ouverture, la mise en place en fait d'une solution qui va permettre en fait aux consommateurs de se retrouver encore plus immergés dans ces jeux ouverts à tous, comme le slogan le dit, les jeux grands ouverts, qui est le slogan en fait de Paris 2024.
Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où en fait votre partenariat est assez fort, parce que évidemment cette cérémonie d'ouverture qui s'annonce totalement grandiose sur la scène, on va pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez, enfin il nous tarde de voir tout ça. En fait l'idée c'est d'installer sur beaucoup de bateaux, je crois, d'après ce que j'ai compris, hein, des péniches, des Galaxy S24, voilà, connectés à la 5G, dans une 5G qui est privée, en quelque sorte, dont vous garantissez les débits. Et je vous laisse raconter la suite, Jérôme et Laetitia, voilà. Allez-y.
Donc l'idée, c'est qu'il va y avoir 85 bateaux, petits, grands, qui vont donc déambuler sur la Seine avec toutes les équipes et les athlètes. Et l'idée, ça a été d'installer 200 Samsung Galaxy S24 Ultra.
Ah oui, donc le top du top.
On a voilà le top du top, le produit en fait le meilleur en fait en termes de capacité vidéo pour pouvoir retransmettre donc cette cérémonie d'ouverture avec un nouvel angle de vue, avec une approche complètement nouvelle. Cette cérémonie, elle est nouvelle, elle est complètement atypique parce que c'est la première qui est hors d'un stade, mais c'est aussi la première qui va être bénéficiée en fait de cette solution. Et il a fallu qu'on travaille donc pendant quelques mois, hein, parce que ça fait plus d'un an qu'on a commencé à travailler avec Orange pour tester ces produits, les installer. Bien sûr.
Et puis les bateaux vont bouger, j'imagine, en plus, non?
Oui, les bateaux vont bouger.
C'est ça le problème.
Ils vont faire 6 km.
Voilà, c'est ça. Donc, imaginez 85 bateaux équipés de smartphones qui vont retransmettre donc des images en direct, qui vont être diffusées où ces images, en fait? Qui c'est qui va les récupérer?
Alors, c'est OBS.
Ça va être l'une des visions de la retransmission télé.
Exactement.
De cette cérémonie d'ouverture. On verra des images qui ont été captées par les téléphones Samsung.
Voilà, on verra des choses qu'on n'a pas vues auparavant parce qu'on sera tout près des athlètes et on pourra vivre le moment de l'intérieur.
Est-ce que c'est une prouesse technologique, ça, sincèrement, ou pas?
Alors oui, c'est une prouesse. Enfin, au global, on va dire que la cérémonie d'ouverture, c'est le défi, l'intérieur du défi des Jeux Olympiques. Parce que, peut-être juste pour situer, les Jeux Olympiques, c'est comme si on faisait, sur 29 jours, 32 Coupes du Monde de manière simultanée. Donc autant vous dire, c'est quand même très gros.
Et
c'est vrai que la cérémonie d'ouverture, comme le disait Jérôme, c'est la première fois que c'est en dehors d'un stade. Ça va être en mobilité. Effectivement, les bateaux vont bouger. Nous, ça a été un challenge technologique parce qu'on a tiré 500 km de câbles fibres, 200 bornes Wi-Fi, on a rajouté de la couverture, avec en plus le respect quand même d'un patrimoine architectural. Donc
il faut faut que ce soit invisible.
Invisible.
Et que ça booste.
Et technologique. Et que ça marche. Et alors peut-être, parce qu'il y a la cérémonie d'ouverture, mais ce que nous faisons en partenariat, nous le faisons aussi à Marseille. Ça, je crois que ça va être aussi assez spectaculaire, embarqué dans des bateaux.
Voilà, on a été encore plus loin, parce que finalement, la Seine, peut-être...
Ouais, c'est trop fastoche, finalement.
Voilà, on va équiper également en fait, les bateaux des compétitions de voile. Donc là, on est sur un environnement qui est beaucoup plus compliqué à gérer, puisqu'il y a de l'eau salée, puisqu'il y a du soleil, ça tape fort, il y a des changements de température, il y a du vent. On a travaillé en effet aussi pour améliorer en fait, la capacité de transmission ensemble. On a été mettre des bornes sur les bateaux aussi pour pousser en fait, notre signal, pour que pendant ces compétitions, on puisse avoir aussi une vision complètement nouvelle.
Ça me fait penser un peu, Laetitia, au Tour de France, qui est une vraie prouesse technologique chaque année, hein, avec des moyens de retransmission phénoménaux, des hélicoptères, enfin des relais un peu partout, etc. D'ailleurs, vous êtes partie prenante hein, du Tour de France. Là, c'est quoi c'est, vous preniez tout à l'heure l'exemple de la Coupe du Monde. Là, c'est je ne sais pas combien de Tours de France. Voilà. Parce que...
c'est ça. Donc, c'est vrai que le défi est immense, mais effectivement, chez Orange, nous avons l'expérience hein, depuis plus de 20 ans de connecter ces grands événements. On l'a fait pour la Coupe du Monde de rugby, on l'a fait pour l'Euro en 2016, comme vous le disiez, on le fait tous les ans pour le Tour de France, on le fait aussi pour Roland-Garros, donc voilà, on est habitué. Bon là, voilà, il y a une taille et un enjeu qui évidemment nous rend à la fois plein de...
Certains experts, alors je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais certains experts nous disent que finalement, il y a quand même un risque de congestion des réseaux, parce que évidemment, il y a tous ceux qui vont bosser, il y a évidemment le broadcast, il y a tous les métiers, on va dire les métiers induits qui bossent pour cet événement-là. Il va y avoir des millions de gens, alors ils vont pas être tous au même endroit, au même moment, mais voilà. Est-ce que vous avez malgré tout une petite peur de se dire, est-ce que le réseau va tenir finalement ?
Alors, une peur, non. On travaille pour que, effectivement, et on met les moyens en place pour que tout se passe parfaitement. Donc, il y a de toute façon tout ce que l'on propose comme prestation, finalement, au titre de l'organisation de l'événement. Mm-hmm. Et là, comme je l'évoquais, ben, voilà, on a défini un schéma et mis en place... par exemple, cette 5G privée, pour être certain qu'effectivement ça fonctionne. Et nous avons mis des renforts dans les sites, effectivement, que ça soit les fan zones, enfin voilà, les sites où il y aura les compétitions, pour renforcer. Par contre, évidemment, quand on va retrouver, par exemple, on va avoir des centaines de milliers de personnes au moment de la cérémonie d'ouverture sur les quais, il se peut qu'effectivement il y ait un peu de congestion et de délai. Ça, évidemment, et on ne pourrait pas couvrir pour garantir 100%.
D'où cette 5G privée.
Voilà.
Dont bénéficieront les smartphones de Samsung, qui, eux, ne seront pas, on va dire, impactés par la montée en charge du réseau. Exactement. Eux, ils auront leur autoroute, en quelque sorte, oui. Qui ne sera pas embouteillée. Et donc, ils pourront retransmettre leurs
absolument,
images.
Absolument. Donc, ça, c'est garanti d'un côté. Et nous avons aussi énormément renforcé pour garantir que le grand public ait la meilleure expérience possible. Voilà, évidemment, on reste prudent. Il se peut qu'à un moment donné, sur un point donné, il y ait un petit peu de saturation. Mais dans tous les cas... voilà, je peux vous dire que toutes les équipes sont très très mobilisées pour que tout se passe très bien.
Alors là, on fait un focus sur Orange aussi, mais aussi les autres opérateurs, que ce soit SFR, Free ou Bouygues Télécom, surdimensionnent leur réseau, bien évidemment, parce que c'est un moment intense. Il faut que tous les clients puissent se connecter. Ça, c'est une première expérimentation avec le S24 Ultra. Est-ce qu'il y a d'autres démonstrations technologiques de Samsung durant ces JO?
Non, il n'y a pas de...
Il y en a une qui se trame, d'après ce que j'ai compris, là, qui va bientôt arriver, non? Non? Il n'y a rien qui va arriver? Top secret?
On verra. On verra bien. On a toujours été partenaire technologique. On a participé à pas mal d'expérimentations depuis 1988, où à l'époque on avait permis en fait aux athlètes d'appeler leur famille avec un programme qui s'appelait Call Home et qui permettait, dans un monde où il n'y avait pas encore de téléphonie mobile,
de pouvoir passer des coups de fil.
Tout au long des différentes Olympiades, on a eu pas mal de choses. on a des choses et on verra bien.
On verra bien, on aura l'occasion d'en reparler sans doute. Dernière question, Laetitia. On parle beaucoup d'héritage des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y aura un héritage technologique des Jeux Olympiques? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez garder, des infrastructures que vous avez installées, que finalement vous allez garder et qui resteront et dont les Parisiens et les Marseillais et tous ceux qui sont en France et qui bénéficient, enfin qui vont avoir un impact des JO, conserveront?
Alors absolument. Alors peut-être je voulais juste revenir parce qu'effectivement nous allons proposer aux 15 000 athlètes olympiques et paralympiques de pouvoir être connectés quand ils arrivent en France. Donc nous allons leur remettre une offre Orange Holiday qui leur permettra de surfer sur la 5G d'Orange et d'appeler effectivement leurs proches pour rester en contact pendant l'événement. Et effectivement, donc il y a à peu près 70% des équipements que nous mettons en place qui seront des équipements pérennes. Donc oui, il y aura une forme d'héritage.
Donc c'est quoi? C'est des émetteurs supplémentaires, c'est ça?
Voilà.
Amélioration de couverture.
C'est de l'amélioration de couverture, absolument. Et puis dans tous les cas, nous le faisons avec quand même un souci environnemental qui soit assez fort. Donc 70% qui seront pérennes. Et puis on va réemployer 75% des autres équipements. Donc voilà, pour ne pas, entre guillemets, gâcher des équipements qui seraient utilisés que de manière temporaire. Donc il y a également ce souci, mais c'est le cas au global de Paris 2024 d'avoir ce souci
d'héritage. Oui, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'héritage des Jeux Olympiques. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, ça donne envie, ça va bientôt arriver. Laetitia Orsini, donc vous êtes la directrice d'Orange France. Merci d'être passée par le plateau de Tech & Co. Et merci à Jérôme Bloch, qui est le directeur marketing et stratégie de Samsung Electronics France pour la division Mobile Experience. Pour terminer ce Tech & Co, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Très belle soirée. Et demain, Tech & Co sera là. Ce sera FedEx Simotel qui sera à cette même place. Je vous souhaite une très très belle soirée et à très vite, bien sûr.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.